l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence sur le Causse. 106.5.
Et c'est sous la tempête qu'on vous accueille à la mi-journée. Présence midi en direct jusqu'à 13h. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous, vous qui nous écoutez dans notre région. L'entreprise du Val d'Arise, l'Énage des Pyrénées, est une entreprise familiale qui est implantée dans le département des Hautes-Pyrénées, plus précisément dans le village de Ciotat. Cette entreprise de l'Énage conserve un savoir-faire. Nous irons en reportage dans les ateliers avec le gérant de cette entreprise. Il s'agit de Romain Lopez et c'est Andro de Jean-Covy qui est sur place là-bas. Et puis nous prendrons la direction des Pyrénées. Lucien Brier, né en 1860. Avec son appareil photo, il a exploré les Pyrénées, notamment l'Aragon. Il a publié des articles, des ouvrages, il a animé également des conférences. C'est l'auteur qu'a sélectionné cette semaine Anne Lasserre dans Le regard des écrivains sur les Pyrénées. Place pour le moment à 12h02 à l'actualité régionale avec Éric Leclerc et les titres à la une. Éric.
Eurostar choisit Alstom pour 30 trains à très grande vitesse à Velia Horizon. Cette commande porte sur la version quadri-tension de ce train à très grande vitesse répondant aux besoins de circulation européenne. Les rames internationales circuleront en effet sur le réseau ferré de 5 pays sous la bannière Eurostar. Alstom a annoncé un investissement de 150 millions d'euros pour accroître la capacité de production du groupe sur plusieurs sites français. 10 des 14 sites français d'Alstom seront ainsi impliqués dans ce projet, dont Tarbes pour la traction et les armements électriques et EDC Toulouse pour les circuits électriques. Grosse galère hier dans le métro toulousain. La ligne B du métro était partiellement interrompue à la mi-journée entre les stations Bordeaux-Rouge et Palais de Justice en raison d'un problème technique sur une rame située à la station Compense-Caffarelli. Le trafic a pu reprendre en fin d'après-midi. Quant à la ligne A, elle a connu également une interruption de trafic suite à un colis suspect à la station Balmagramont. Puis à la reprise du service, une personne a fait un malaise à la station Fontaine-Lestang.
Merci Éric Leclerc, à tout à l'heure 12h30 pour développer ces titres dans le journal. À suivre dans un instant, on va prendre la 64 direction Bayonne. C'est Violaine Ricourt-Dumas qui nous attend là-bas sous la tempête pour évoquer l'agenda du diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron. On parlera notamment de plusieurs concerts qui sont organisés dans son diocèse. Ça sera juste après le chanteur Grégoire qui nous accompagne en musique pour débuter cette émission.
Plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez, et entrez dans la danse. Allez, venez, laissez faire l'insouciance. À deux, à mille, je sais qu'on est capable. Tout est possible, tout est réalisable. On peut s'enfuir, bien plus haut que nos rêves. On peut partir, bien plus loin que la grève. Avec l'envie, la force et le courage. Le froid, la peur ne sont que des mirages. Laissez tomber les malheurs pour une fois. Allez, venez, reprenez avec moi. Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent. Plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez, et entrez dans la danse. Allez, venez. Et naïve, même un peu belle.
suis plus seul. Et tous ceux qui sont seuls, allez, venez et entrez dans la danse.
C'était le chanteur Grégoire à l'instant, avec Toi plus moi à 12h06.
Radio Présence dans le Grand Toulouse, 97.9.
Et c'est sous la tempête que j'accueille Violaine Ricourt-Dumas. Bonjour Violaine.
Bonjour Gilles, bonjour à tous. En effet, une grosse tempête ici à Bayonne.
Voilà, vous êtes avec nous pour évoquer l'agenda du diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de vent, notamment sur la côte atlantique. Hein.
Oui, ça souffle bien, notamment à la cathédrale de Bayonne, là où je suis, mais on survit, ça va.
Ouais, on enregistre cette émission donc à la mi-journée. Avec vous, on va détailler l'agenda béarnais de votre diocèse et on commence avec demain, vendredi, l'association des Amis de l'Église qui organise un concert orgue. C'est du côté d'Orthès, hein.
Tout à fait, donc à Orthès, entre Pau et Bayonne, cette magnifique église Saint-Pierre, ce sera l'occasion de donner des sous pour la restauration de la baie centrale et des vitraux de l'église, grâce à ce concert de l'association des Amis de l'Église qui l'organise, un concert d'orgue et de hautbois, donc il y aura Tobias Sauer à l'orgue et Pascal Jean au hautbois, donc dans l'église Saint-Pierre, c'est demain soir à 20h, église Saint-Pierre d'Orthès, donc pour ce concert, n'hésitez pas. C'est l'occasion de soutenir les amis de l'Église qui donc s'occupent de la restauration de ces vitraux.
On poursuit avec cette exposition d'art chrétien. Ça va se passer à Oloron-Sainte-Marie. Alors c'est à l'ancienne cathédrale.
Tout à fait, donc place de la cathédrale à Oloron-Sainte-Marie, c'est du 25 octobre au 15 novembre, c'est la paroisse qui vous propose cette exposition sur le thème « L'art chrétien de l'obscurité à la clarté, itinéraire archéologique entre Pyrénées et Méditerranée ». C'est l'occasion d'aller venir voir cette exposition donc à l'ancienne cathédrale d'Oloron-Sainte-Marie.
Et puis puisque nous sommes à Oloron, on en profite pour signaler que ce dimanche, la cathédrale Sainte-Marie d'Oloron accueille un concert.
Oui, ce sera un concert d'automne, violon, alto et orgue, dimanche à 16h à la cathédrale Sainte-Marie d'Oloron. Le tarif 12 euros pour les adultes et gratuit pour les moins de 18 ans. Si on veut passer un bon moment, là encore, un beau concert en prévision dimanche à 16h à la cathédrale Sainte-Marie d'Oloron.
Direction Nail avec la communauté des Béatitudes qui propose un week-end de danse.
C'est un week-end sur le week-end du 1er novembre, du vendredi soir 31 au dimanche 2 novembre à 14h. La communauté des Béatitudes vous propose cette session de danse d'Israël. C'est vrai que c'est un peu la particularité de cette communauté des Béatitudes de proposer ces danses d'Israël qui permettent de prier à la suite du roi David. On va danser et prier. Il y aura aussi des temps d'enseignement, bien sûr. Et puis on va apprendre à danser les danses d'Israël, la liturgie et des repas. Donc c'est sur un peu plus de 2 jours le week-end donc du 1er novembre. N'hésitez pas à aller voir et vous inscrire sur le site des Béatitudes de Nail, donc qui se trouve à Nail, au sud de Pau.
Voilà pour une partie de l'agenda du diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron, diocèse64.org dans l'agenda. On retrouve toutes ces annonces avec tous les contacts pratiques et c'est là-dessus que je vais vous remercier, Violaine Ricourt-Dumas. Je vous souhaite une excellente journée à Bayonne. Je rappelle que vous êtes la responsable de la communication pour ce diocèse.
Merci beaucoup, bonne semaine à vous aussi.
Présence.
Et la suite de cette émission, dans un instant, c'est direction l'entreprise du Val d'Arize, le Lainage des Pyrénées. C'est une entreprise familiale implantée dans les Hautes-Pyrénées à Ciotat qui conserve son savoir-faire sur place. Reportage dans les ateliers avec le gérant de cette entreprise, c'est Romain Lopez. Il sera au micro d'Ambroise Jankovic.
It's just another morning, Tuesday. I only feel like living day after day. Life slips away. Moi, je vis d'amour et de danse. Je vis comme si j'étais en vacances. Je vis comme si j'étais éternelle. Comme si les nouvelles étaient sans problème. Moi, je vis d'amour et de rire, je vis comme si y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires et d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Laissez-moi. Laissez-moi.
Bon appétit à l'écoute de Radio Présence. Dans un quart d'heure, le journal régional avec Éric Leclerc. Pour le moment, on prend la direction des ateliers du Val d'Arize, l'énage des Pyrénées. On retrouve sur place Anne-Rose Jankovic.
Radio Présence à Toulouse, 97.9.
Si vous avez déjà eu l'occasion de vous promener du côté de Bagnères de Bigorre et de parcourir le magnifique axe qui vous conduit de Bagnères jusqu'à Tournailles, alors sans doute êtes-vous passé devant l'entreprise du Val d'Arize, l'énage des Pyrénées, une petite entreprise familiale implantée dans le village de Ciotat et qui conserve un patrimoine et un savoir-faire typique de notre région. Nous découvrons aujourd'hui les ateliers avec Romain Lopez, gérant de l'entreprise.
Alors, on est ici dans l'atelier de confection, voilà, donc où on a toutes les petites machines pour coudre, pour assembler les parties des vêtements, donc les surjeteuses, les piqueuses, les boutonnières, pose-boutons, ourleuses, festonneuses, voilà, on a toutes les petites machines qui servent à confectionner nos articles. Ensuite, on va passer à la production du tissu. Donc voilà, on arrive sur la première étape de fabrication du tissu. Donc nous, on reçoit les bobines comme ça, déjà teintes, déjà filées. Et on va en faire des bandes de fil qu'on va venir enrouler autour du tambour en bois. On va faire un certain nombre de tours, puis on va décaler, faire une autre bande et ainsi de suite jusqu'à remplir le tambour en entier. Et ensuite, on va ensoupler, c'est-à-dire qu'on va mettre tous les fils qu'il y a sur le tambour en bois, on va les passer sur les rouleaux métalliques que vous avez derrière. Voilà. Et ensuite, ces rouleaux métalliques vont servir à faire notre tissu des Pyrénées. On va ensuite le tricoter sur les étapes suivantes. Voilà. Donc, on voit les bandes de fils qui ont été faites. Voilà.
Ça, c'est de la laine.
Voilà, c'est de la laine. Voilà. Et on voit les bandes de fils qui ont été faites. Et ensuite, tout en même temps, sont enroulées autour du tambour en bois. Enfin, autour du rouleau métallique. Voilà. Et ensuite, on les porte avec le palan, parce que bon, ça pèse quand même son poids. Voilà. Et donc, on va les mettre sur les métiers à tricoter. Voilà. Donc, ce sont des métiers Rachel. Ce sont des métiers Rachel. Ce sont un mélange entre le tissage et le tricotage. Voilà. Le rouleau de devant va tricoter, faire des boucles dans des boucles, et les rouleaux de derrière vont faire un système de va-et-vient qui s'apparente au tissage. On n'a pas la navette qui fait de droite à gauche, voilà. Donc on voit quand même ici là, les aiguilles qui montent, qui attrapent les fils
et qui tricotent,
voilà. Voilà. Donc là, sur cette machine, il y a 1737 fils qui tricotent en même temps. Voilà. Donc il faut avoir l'œil dessus, pas qu'il y en ait un qui casse, voilà. Voilà. Et donc ça donne ce tissu, voilà, qui est indémaillable. C'est la première étape de fabrication. Et ensuite, on va carder ce tissu pour donner
de la solidité un peu.
Exactement, de l'épaisseur, de la douceur et surtout le terme tissu des Pyrénées. Quoi. Carder, ça veut dire gratter avec des chardons. À la base, on a une petite machine d'exposition là-bas. Où à l'origine, on utilisait des.
Qui lui donne le côté.
Poilu, brouillé, voilà. Cardé, ça vient de chardon, en fait. D'accord. on va passer le tissu dans cette machine, une carde. Donc on va gratter plusieurs fois, endroit, envers, endroit, envers. Dans un premier temps, on va agresser le tissu, faire sortir la fibre. Et dans un second temps, on va... Voilà, exactement.
Ça, c'est avant le passage.
Voilà. Là, il n'y a pas eu de passage. Ici, comme vous pouvez le voir, on a gratté qu'un côté d'abord. Voilà, là, ça n'a pas été gratté. Et une fois terminé, ça va donner...
Ça
donne ce tissu.
C'est incroyable.
Voilà. Et ensuite, là, nous avons toutes les petites machines de finition, celles qui font les côtes, les ganses, les galons. Mis à part les boutons et les fermetures éclairs, nous fabriquons tout ici, tout sur place.
Bonjour Romain Lopez.
Bonjour.
Vous êtes le gérant de la société Valdariz. C'est une fabrique de tissus des Pyrénées, à quelques kilomètres de Bagnères de Bigorre, à Ciotat exactement. Est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter cette entreprise qui est, je crois, familiale ?
Alors oui, c'est une entreprise familiale qui a été créée par mon grand-père en 1978. Et voilà, ensuite ma grand-mère a repris, mon père, ma mère, et maintenant moi, j'ai repris en début d'année, en janvier. Et voilà, c'est une tissu de lainage des Pyrénées, c'est un tissu 100% pure laine, donc on vient tricoter le tissu et ensuite on va le gratter pour avoir cet aspect doux, épais, chaleureux. Voilà.
Donc c'est la laine qui provient des moutons des Pyrénées ? Pas tout à fait.
Non, alors c'est la manière de faire qui vient des Pyrénées.
D'accord.
La laine, les moutons, eux, sont étrangers. Ils viennent de grosses productions néo-zélandaises, australiennes, sud-américaines.
Voilà. Et ça vous arrive donc par grosses remorques ? Racontez-nous.
Alors non, nous on reçoit les bobines de fil déjà filées, déjà cardées, déjà teintes. Voilà, donc on choisit le fil à la couleur, on choisit la couleur qu'on veut tricoter. Et ensuite, on les met sur les métiers. Voilà.
Alors, votre métier à vous, c'est justement de travailler sur ces machines qu'on appelle, d'un nom que vous m'avez dit tout à l'heure, mais que j'ai oublié.
Alors, il y a plusieurs machines. Il y a l'ourdissoir, qui consiste à faire des grosses, avec ces petites bobines de fil, on va en faire des grosses bobines. Voilà. Ensuite, il y a les métiers Rachel. Ce sont les métiers à tricoter. C'est un mélange entre le tissage et le tricotage. Voilà. Et ensuite, il y a la carde où on va gratter le tissu une fois tricoté. Voilà.
Et ça, c'est vous qui faites ça. Vous êtes tout seul sur ce poste-là pour gérer ces machines.
Oui, effectivement, je suis tout seul à la ligne de production de tissus. À une époque, on était plusieurs, mais... Voilà.
Alors, pour nous donner une idée, combien de mètres de tissu pouvez-vous produire chaque jour grâce à ces machines ? Et vous tout seul, en plus.
Alors, à la journée, on va faire une centaine, 150 mètres. Ça dépend des journées. Voilà.
Avec à chaque fois les teintes que vous sélectionnez en fonction de ce que vous envisagez de produire juste après.
Exactement, voilà.
Alors, une fois que ces tissus sont fabriqués, qu'est-ce qui se passe ? L'étape d'après, c'est quoi ?
Alors ensuite, on va découper des pièces de tissu qu'on va ensuite confectionner pour faire nos produits, nos robes de chambre, des vestes, des ponchos.
Ça, c'est la spécialité, robe de chambre, poncho, c'est la spécialité de production ici.
Oui, oui, la robe de chambre, c'est notre produit phare, on va dire. Voilà, notre produit principal.
C'est un produit qui est encore à la mode ?
Eh bien, oui, plus ou moins, oui, bon, pour une certaine tranche d'âge. Mais on arrive à en vendre pas mal, oui.
Alors comment on renouvelle justement le style, les propositions de style ? Comment on fait pour proposer des produits qui peuvent plaire à toutes les générations et voilà pouvoir aussi continuer à faire ce métier-là tout en ne tombant pas dans une spécialité pour une certaine tranche d'âge ?
Eh bien, alors on a une styliste qui nous crée de nouveaux modèles. Voilà, et puis on essaye de se diversifier dans les coloris, faire des couleurs un peu plus flashy, ouais. Voilà, des écossais un peu plus pêchus, on va dire, voilà.
Toutes les couleurs marchent.
Oui, oui, toutes les couleurs marchent. On peut faire n'importe quelle couleur. Là, on a un joli écossais, là, je ne sais pas si vous l'avez vu, avec du orange.
Ah oui, voilà, orange et un peu turquoise.
Voilà, c'est opale et orange, ce qui tranche.
Donc, et qu'est-ce que vous allez produire avec ça ? Une robe de chambre ?
Oui, on va tout faire, robe de chambre, des vestes, des plaids, des couvertures, voilà.
J'ai vu aussi dans la boutique des accessoires.
Mmh. Oui, on fait pas mal d'accessoires, des mitaines, des tours de cou, des écharpes, voilà. On essaye de se diversifier en faisant des petits articles qui se vendent plutôt pas mal.
Donc vous, vous êtes à la production des tissus. Vous nous avez dit que vous avez une styliste. Il y a des couturiers, des couturières.
Oui, effectivement. Il faut des couturières. Donc elles sont trois au petit atelier. Et voilà.
Ça veut dire que chaque pièce qui est produite est une pièce unique.
Oui, toutes nos pièces sont uniques, coupées à la main, faites à la main. Voilà, dans notre petit atelier, on les contrôle aussi manuellement. Avant de les emballer, on leur met un dernier petit coup de brosse pour redonner un peu de volume au tissu. Tous nos produits sont faits avec amour. Voilà.
C'est un vrai défi économique de porter une entreprise comme celle-ci sur un territoire comme le nôtre. Et en même temps, c'est aussi le pari de la valeur, le pari que eh bien, le consommateur, l'acheteur, le client va apporter de l'attention à la qualité du produit et au côté unique de ce que vous produisez.
Oui, nous ce qui m'importe, c'est la qualité. Il faut que... mon père m'a inculqué cette qualité, donc j'essaye d'y mettre tout mon cœur aussi dedans pour donner le meilleur de nous-mêmes. Voilà.
Alors vous avez grandi dans cet univers, vous avez repris l'entreprise familiale. Pour vous, c'était une évidence ?
Oui, c'était une évidence. J'ai fait mes études en fonction de mes choix, enfin de... comment dire ? En fonction de... j'ai toujours voulu venir travailler ici, oui.
Parce que ce métier-là, sur toutes les machines que vous nous avez présentées, ce sont quand même des pratiques très particulières. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes en France qui savent utiliser ces machines. Est-ce que vous avez, vous, le sentiment de pratiquer une profession un petit peu hors du commun ?
Oui, bien sûr. C'est un métier unique, bien évidemment. Alors, en France, les fabriques de textiles se font de plus en plus rares. Donc, et de plus, le tissu des Pyrénées, je pense que je suis peut-être le seul en France à faire ce que je fais. Voilà.
Avec quand même ce retour, on le voit parfois, on l'entend parfois dans les médias, ce retour quand même aux
matières nobles, oui.
Les matières nobles, voilà. La laine a une seconde vie, vous diriez ça ?
Ben oui, nous en tout cas on essaye de lui donner une seconde vie, une seconde jeunesse, et voilà, on essaye de faire perdurer cette matière qui est essentielle.
Comment est-ce que vous vendez ? Alors je crois qu'il y a une boutique ici sur place, hein, au magasin d'usine, mais vous avez d'autres moyens de vente ?
Alors on a bien évidemment le magasin d'usine, ensuite nous avons créé récemment aussi un site internet, vendeur, voilà. Et ensuite, on vend à des boutiques de centre-ville, on vend à des revendeurs internet aussi, voilà. Et on a un autre client qui est comme un revendeur par correspondance, un peu style les Trois Suisses, voilà. Mais spécialisé, lui, dans la laine.
Qui sont vos clients ? Est-ce que ce sont des personnes d'ici qui sont vraiment attachées au patrimoine et à ce savoir-faire qu'ils ont vu et dont ils ont entendu parler de génération en génération ? Est-ce que ce sont aussi des touristes ? Est-ce qu'il y a un petit peu de tout ?
Alors on a de tout, on a des locaux, on a des curistes, on a des touristes, des gens qui passent devant l'usine, qui voient l'usine, s'arrêtent, viennent visiter nos ateliers et ensuite achètent un petit truc au magasin. Voilà, ça vient de partout.
C'est ça aussi la particularité, et je tiens quand même à le dire, c'est l'accueil et la disponibilité. Vous êtes 6 dans l'entreprise, vous avez beaucoup de travail, vous ne chômez pas, mais par contre, quand quelqu'un arrive, vous vous rendez tout de suite disponible pour faire visiter, pour présenter. Ça fait partie, c'est comme ça aussi que vous voyez votre métier, ça fait partie de votre métier de montrer, d'expliquer, et le côté pédagogique, il est important pour vous ?
Oui, bien sûr, ça fait connaître notre métier, c'est essentiel, donc on a souvent des visites, on fait faire des visites par l'office du tourisme de Bagnères, ils nous amènent énormément de monde, donc bien sûr, quand des gens viennent visiter l'usine et nous posent des questions, on s'arrête, on leur répond, et ça fait... les gens ne soupçonnent pas qu'il y ait autant d'étapes de fabrication dans un vêtement. Voilà.
Ouais, et puis un réel savoir-faire avec une équipe que l'on voit jeune, et ça fait plaisir de voir ça. Alors une dernière question, un peu une question qui fâche, mais peut-être que parmi nos auditeurs, certains se disent, oh bah oui, c'est très joli, c'est très bien, le savoir-faire, acheter directement au producteur, mais tout ça, ça coûte cher, alors il vaut mieux sur des grandes lignes, voilà, des grandes chaînes de vêtements. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à cette cet argument de, du prix, entre la qualité et le prix, quelquefois on ne sait pas quoi choisir. Qu'est-ce que vous pourriez répondre ?
Je ne sais pas trop, moi je fais de la qualité, voilà. Bien sûr, chaque travail mérite salaire, donc on se donne du mal pour faire un produit de qualité, donc c'est normal qu'il soit un peu excessif.
Et un produit qui dure ?
Et un produit qui dure, bien évidemment, dans le temps.
Parce que là, ce que vous produisez, ça peut durer toute la vie.
Oui, ça peut durer toute la vie. Nous, on a régulièrement des gens qui viennent nous voir, nous dire, voilà, il y a 20 ans, il y a une vingtaine d'années, je suis venu acheter une robe de chambre chez vous, et là, elle commence un peu à s'user, un peu sur les coudes.
Au bout de 20 ans.
Au bout de 20 ans.
Voilà, voilà la différence entre, voilà, entre ce qu'on achète sur des chaînes de vêtements.
Bien sûr, c'est sûr qu'un t-shirt fabriqué en Chine, il va vous faire 3 lavages. Il va être un peu en biais, donc voilà.
Ça n'arrive pas avec les articles du Val d'Arise. Ah, en fait, j'ai encore une question. Ça, c'est un petit peu la ménagère qui se pose la question. Comment on lave ? Comment on entretient ? Ça ne se lave pas peut-être, la laine. Alors, c'est pas bien. Je vous vois bondir.
Non, la laine ne se passe surtout pas en machine. Sinon, on se retrouve avec un vêtement pour enfants.
Même sur les programmes spécial laine ?
Oui, exactement. Nous, ce qu'on recommande, c'est un coup de brosse et laisser aérer. Voilà. Bon, bien sûr, si vous faites une grosse tâche avec un liquide, tout ça, il vaut mieux l'amener au pressing, lavage à sec. Mais sinon, si c'est juste de comment dire,
il faut des odeurs, par exemple.
Voilà, des odeurs. Et bien, vous mettez un coup de brosse, vous le laissez aérer. Et la laine est une matière naturelle. Elle se auto-lave, en fait.
Ben voilà, voilà la bonne réponse. Merci beaucoup. Alors, je rappelle le site internet www.vda.fr, www.vda.fr. Sur ce site internet, on a à la fois un petit peu d'histoire, un petit peu de présentation de votre métier, et puis la possibilité d'acheter en ligne les productions qui sont chacune des pièces est unique. Hein, voilà.
Exactement.
Voilà. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et merci à Anne-Rose Jankovic, donc, qui a réalisé ce reportage dans les ateliers de cette entreprise qui s'appelle l'entreprise du Val d'Arise, l'Énage des Pyrénées, cette entreprise familiale et qui se trouve dans le département des Hautes-Pyrénées. C'est entre, pas très loin de Bagnères de Bigorre et à Tournat et du côté de Ciotat. Merci à Anne-Rose Jankovic. Il est 12h passé de 30 minutes. On fait un point sur l'actualité régionale. Le journal est présenté aujourd'hui par Éric Leclerc. Bonjour Éric.
Bonjour, Eurostar choisit Alstom pour 30 trains à très grande vitesse à Velia Horizon. Cette commande porte sur la version quadritension de ce train à très grande vitesse répondant aux besoins de circulation européenne. Les rames internationales circuleront en effet sur les réseaux ferrés de 5 pays sous la bannière Eurostar, Allemagne, Belgique, France, Pays-Bas et Royaume-Uni jusqu'à Londres via le tunnel sous la Manche. Une première pour un train à très grande vitesse à deux niveaux. Afin de mieux répondre à la demande croissante du marché français et international pour sa plateforme de trains à très grande vitesse, Avelia, Alstom a annoncé un investissement de 150 millions d'euros pour accroître la capacité de production du groupe sur plusieurs sites français. 10 des 14 sites français d'Alstom seront ainsi impliqués dans ce projet, dont Tarbes pour la traction et les armoires électriques et EDC Toulouse pour les circuits électriques. Grosse galère hier dans le métro toulousain. La ligne B du métro était partiellement interrompue à la mi-journée entre les stations Bordeaux-Rouge et Palais de Justice en raison d'un problème technique sur une rame située à la station Compense-Cafarelli. Le trafic a pu reprendre en fin d'après-midi. Quant à la ligne A, elle a connu également une interruption de trafic suite à un colis suspect à la station Balmagramont. Puis après la reprise du service, une personne a fait un malaise à la station Fontaine-Lestang. En 2025, un Français sur sept assume le rôle de proche aidant en soutenant un parent, un enfant, un conjoint ou un ami en situation de perte d'autonomie ou de handicap. Et ce chiffre ne cesse de croître. Afin de mieux reconnaître cet engagement, le mardi 9 décembre de 9h à 17h est organisée la seconde édition de la journée départementale des proches aidants à l'espace François Mitterrand à Figeac, en présence d'invités exceptionnels, Philippe Croison et de sa compagne Susanna Sabineau. Le village des partenaires vous accueillera tout au long de la journée. Plus de 50 exposants vous présenteront leurs actions, dispositifs et solutions en faveur des proches aidants. L'art déco au cœur de Rodez, des somptueuses mosaïques du café Broussy, en passant par les sculptures de l'hôtel des Postes, embarquez pour un voyage au cœur de l'art déco et réservation obligatoire sur billetterie. rodez.tourisme.fr, nombre de places limitées. La visite se déroule le vendredi 14 et 31 octobre à 14h30.
Merci Eric Leclerc. Autour de l'info des 13h sur notre antenne avec le journal national et international avec la rédaction française de Radio Vatican. Dans les prochaines minutes, direction les Pyrénées avec le regard des écrivains sur les Pyrénées. Lucien Brier, né en 1860 avec son appareil photo, il a exploré les Pyrénées, notamment l'Aragon. Il a publié plusieurs articles, il a fait et animé de nombreuses conférences. Anne Lasserre l'a sélectionné cette semaine pour sa chronique qui sera à écouter aux alentours de 12h45. Pour le moment, direction le diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron avec Violaine Ricourd-Dumain.
Présence dans le Tarn-et-Garonne, 93.3.
Père Gérard Chabanon, bonjour. Vous êtes le responsable de la communauté des Pères Blancs de l'EHPAD de Billère, les Pères Blancs qui fêtent un jubilé cette année puisque c'est le bicentenaire de la naissance du cardinal Charles Lavigerie, votre fondateur. Et à ce sujet, des célébrations vont avoir lieu à Bayonne les 30 et 31 octobre. Vous êtes présent à Billère, vous êtes une communauté présente à Billère depuis longtemps. Donc, Père Gérard Chabanon, vous en êtes le responsable. Est-ce que vous pouvez nous parler de la vie du cardinal Lavigerie, qui est né à Bayonne, mais qui après a bien sûr beaucoup rayonné dans le monde et qui a fondé donc votre congrégation, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il y a les Pères Blancs et les Sœurs Blanches aussi.
Bonjour et merci de votre appel. Donc, le cardinal Lavigerie est né à Bayonne en 1825. Il était de famille, par sa maman, il était béarnais, et il était charentais par son papa. Mais il est né à Bayonne, mais assez rapidement, il est parti faire des études à Paris, et c'est là qu'il sera remarqué par plusieurs personnages importants du 19e siècle, dont Monseigneur du Panloup, et qu'il sera amené à étudier à la Sorbonne, à enseigner même, et puis à prendre des responsabilités dans l'œuvre des écoles d'Orient qui venaient d'être fondées et qui allaient s'occuper de tout ce qui était école en Orient. Il va avoir une influence importante à l'occasion d'un incident qui sera très important, ce sera le massacre des chrétiens au Liban par des druzes, et il va se rendre dans ce pays et récolter à cette occasion beaucoup d'argent pour aider à la reconstruction et des écoles et des instituts qui s'occupaient d'eux.
Donc au début, c'est plutôt le Moyen-Orient qui l'intéressait en fait.
Effectivement, il va garder cet intérêt pour le Moyen-Orient, et lorsque en 1878 on va lui proposer de prendre à la Société des missionnaires d'Afrique Père Blanc le sanctuaire de Sainte-Anne à Jérusalem, il va bien sûr l'accepter, et jusqu'à présent, nous sommes toujours présents à Sainte-Anne de Jérusalem. Mais qui est le père Lavigerie à ce moment-là, va être d'abord nommé évêque à Nancy, ça c'est en 1863. Il va rester quelques années à Nancy, et sa réputation de formateur, d'évêque va se répandre en France, et on allait lui proposer le siège comme coadjuteur à Lyon, Primat des Gaules, qui était un siège important évidemment en France. Mais une chose va entrer en jeu, c'est qu'il va découvrir quelque chose qui était en lui depuis longtemps, cette vocation missionnaire, mais qui n'était pas très claire jusqu'à présent. À l'occasion de la bénédiction de l'église de Saint-Martin à Tours, où il avait été invité par l'archevêque, il va faire un rêve assez étonnant où il se voit invité par des gens à la couleur foncée, et qui l'invite à venir chez eux. Et ça va le marquer beaucoup, si bien que lorsque le siège d'Alger sera libre, il va faire candidature et sera nommé au siège d'Alger. C'est de là qu'il va rayonner sur l'Algérie, évidemment, mais sur le reste de l'Afrique, puisque le Vatican va lui confier un peu plus tard toute l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et le Soudan.
Donc il avait un vrai rôle de diplomate, en fait. Il n'était pas seulement archevêque, il avait ce rôle un peu de géopolitique
absolument.
À Alger autour.
Et à Alger en particulier, il va avoir une influence importante. Il va d'abord lutter un petit peu parce que la politique française en Algérie était de ne pas s'occuper des musulmans. Il s'agissait seulement... alors que lui va s'intéresser dès le départ aux musulmans. Et en particulier, une famine qui va se déclarer dans les années 71 va lui faire commencer des orphelinats pour les enfants, pour les sauver de cette famine. Et donc, à ce moment-là, il a un dialogue qui est assez musclé avec le gouverneur d'Algérie. Mais souvent, il va quand même être approuvé pour son travail et pour ses activités en faveur des musulmans. Donc, c'est aussi le moment où il découvre que l'Église en Algérie, il y avait un diocèse donc important, et avec un séminaire pour former des prêtres, mais qui ne s'occupait que des Français, des colons français. Lui va voir l'importance de travailler avec les musulmans aussi, de s'occuper des musulmans. Et c'est cela qui va l'encourager à fonder cet institut missionnaire, cette société des missionnaires d'Afrique Père Blanc, qui, à partir de 1868, va se développer et dont la fonction et le but et le rôle sera avant tout de travailler et de s'occuper des musulmans.
Et puis, il a aussi lutté contre l'esclavage.
Alors, ça vient plus tard. Effectivement, lorsque plus tard, à partir 10 ans plus tard, 1878, il commence à envoyer des caravanes, donc ce que l'on appelle des caravanes des missionnaires, des groupes de missionnaires en Afrique centrale et en Afrique de l'Est. Ce sont eux qui, par leur correspondance, vont lui faire découvrir ce fléau qui existait en Afrique depuis longtemps, la traite des Noirs par des Arabes. Et donc, il va y avoir chez lui une prise de conscience très forte. Il va se révolter contre cette situation et il va faire une campagne anti-esclavagiste qui sera extrêmement importante. Il va se déplacer en Europe, commencer à Paris, puis à Londres, à Rome, à Bruxelles, et partout il va prêcher, demander que l'on se dresse contre ce fléau. Mmh. Il n'aura pas tous les soutiens dont il espérait. Il avait par exemple en particulier l'idée que la Belgique, à la grâce qui était très présente au Congo, puisse former une armée ou donne son accord pour avoir une armée qui lutte véritablement contre les esclavagistes. Mais ça ne sera pas approuvé. Néanmoins, la prise de conscience sera importante et jusqu'au Vatican, le pape Léon XIII, à cette époque-là, va écrire une lettre pour condamner cet esclavage.
Et donc, il est mort à Alger, finalement, 10 ans après avoir été nommé cardinal, c'est ça ?
C'était créé cardinal. Il est mort le 28 novembre 1892 à Alger. Et son corps a été transporté ensuite à Rome, où il est, sa tombe est dans notre maison généraliste à Rome.
Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, son héritage est important, puisque la famille missionnaire des pères blancs et des sœurs blanches est importante, surtout en Afrique, en fait.
Ah oui. Donc, nous sommes la société missionnaire des pères blancs est actuellement, on compte environ 1100 membres, dont plus de 55% sont d'origine africaine. Donc, et ça, c'est une grande victoire pour le cardinal Lavigerie qui avait toujours dit que l'évangélisation profonde de l'Afrique se fera par des Africains. Et donc, nous sommes très heureux de pouvoir avoir accueilli des jeunes Africains qui sont devenus missionnaires. la plupart des postes importants dans notre société, le supérieur général qui sera à Bayonne le 30 et le 31, comme une partie de son conseil, les provinciaux en Afrique sont tous africains maintenant. Donc la relève est vraiment assurée par l'Afrique.
Alors justement, le rendez-vous, c'est jeudi 30 et vendredi 31 octobre à Bayonne pour célébrer ce bicentenaire. C'est la fin du bicentenaire, ça a duré toute l'année. Un pèlerinage est prévu sur les pas du cardinal dans Bayonne. Il y aura également une table ronde à la médiathèque de Bayonne, à côté de la cathédrale. Et puis vendredi, une messe d'action de grâce présidée par notre évêque à 10h30 à la cathédrale. Donc vous le disiez, il y aura une délégation qui sera présente de plusieurs endroits du monde qui vont venir exprès. Il y aura également, je crois, sœur Angela Capitingana, la responsable de la congrégation des sœurs missionnaires de Notre-Dame d'Afrique.
Exact, c'est exact. Donc il y aura, je ne suis pas tout à fait au courant de tous ceux qui vont et celles qui vont participer, mais il y aura une représentation et des pères blancs et des sœurs blanches à Bayonne ce jour, pendant ces deux journées. Peut-être certains participeront à une première journée, d'autres à la seconde, mais de toute façon, il y aura une participation assez importante. Nous avons en France environ 90 en France. Je suppose que nos confrères de Toulouse, par exemple, qui ont la paroisse des Minimes à Toulouse et qui sont des Africains, seront présents à Marseille et puis d'autres qui viendront peut-être de... Je sais que le provincial d'Europe sera avec nous. Donc il y aura une représentation assez large, je crois, des missionnaires d'Afrique et des sœurs de missionnaires de Notre-Dame d'Afrique.
Un moment important donc pour vous, Père Blanc. Merci beaucoup, Père Gérard Chabanon, de nous avoir parlé du cardinal Charles Lavigerie, dont on fête les 200 ans de la naissance, et donc avec ses célébrations à Bayonne, jeudi 30 et vendredi 31 octobre prochain. Ce sera l'occasion de connaître mieux cette figure, de voir aussi sa maison natale, la tombe familiale, puisque donc vous le disiez, sa maman était béarnaise de la famille Latry, je crois, et il est né à Bayonne. Merci beaucoup, Père Chabanon.
Voilà, et merci aussi à Violaine Ricourt-Dumas qui a réalisé cet entretien donc depuis Bayonne. La suite de cette émission à 12h44, c'est avec Anne Lasserre. Dans un instant, elle a sélectionné un auteur qui s'appelle Lucien Brier dans sa chronique Le regard des écrivains sur les Pyrénées. Lucien Brier qui est né en 1860 et il a parcouru les Pyrénées avec son appareil photo. On en parle dans un instant.
Présence. Les podcasts de Radio Présence. Podcast de Radio Présence. Toutes les émissions et chroniques de votre radio en réécoute sur le site internet de Présence.
Immersion.
Vivante Église.
De passage à Lourdes.
Église Actualité.
Présence Matin.
Parole d'auteur. Toutes les émissions et chroniques de votre radio. www.radioprésence.com.
Un service de Radio Présence.
Bonjour Anna Lasserre.
Bonjour Philippe.
Tranquillement installé dans les studios de Radio Présence, comme chaque semaine, on part dans les Pyrénées. Le concept, bien sûr, c'est à travers un ouvrage que vous avez sélectionné. Aujourd'hui, on va parler de photos, mais et toujours fidèle au poste.
Oui, c'est toujours la dernière année, oui.
Toujours, ben voilà. Est-ce que vous avez appris des choses? Parce que vous avez fait cette thèse là, sur la perception des Pyrénées, donc vous aviez déjà pas mal de connaissances sur les Pyrénées à l'époque, à une certaine époque, à travers le temps d'ailleurs.
Oui.
Est-ce que malgré tout, aujourd'hui, vous apprenez toujours des choses?
Toujours, Philippe, parce que par exemple là, on va parler du Haut-Aragon, et moi j'ai beaucoup travaillé sur les Pyrénées françaises, c'est pour cela que c'est une...
Le versant espagnol un peu moins.
Voilà, le versant espagnol, je le connais moins,
oui.
Je le découvre effectivement au fur et à mesure de certaines chroniques, quand nous faisons une incursion en Espagne, par exemple.
Et lorsque vous lisez ces livres, est-ce qu'il n'y a pas une lassitude au bout d'un certain temps, non?
Non, parce que tout d'abord, ils sont souvent, quand on prend des livres, quand on prend la machine à remonter le temps, ils sont souvent le reflet d'une époque, d'une mentalité, d'une façon de percevoir les montagnes, comme on l'avait vu dans
cette chronique.
Dans cette chronique.
Qui était fort intéressante d'ailleurs.
Voilà. Et il y a toujours quelque chose à découvrir à travers le regard de quelqu'un d'autre, finalement.
Ouais. Mmh. Et voir les Pyrénées comment elles étaient. À l'époque, c'est vrai, vous appreniez que les Pyrénées ont resté en bas. C'était horrible, ça faisait peur. Voilà. Il y avait plein de légendes.
Oui.
Et puis, on ne gravissait pas du tout. On ne faisait pas de ski, rien.
Ah non, il faut attendre, je crois, 1903 pour que la première paire de skis arrive dans les Pyrénées.
Au début du XXe siècle, ouais.
Oui. Pendant longtemps, elles étaient le repère... au 18e du diable,
bah oui,
des sorcières.
C'est incroyable, hein.
Oui.
On a du mal à aujourd'hui à le percevoir que c'est pas si vieux que ça, quoi. C'est un siècle le ski, quoi.
Voilà, et encore au 19e siècle, il y a des gens qui affirmaient qu'ils avaient vu des sorcières traverser le ciel en chevauchant un dragon ou un animal monstrueux.
Remarquez, si on reprend le texte de la jeune dame qui franchissait les Pyrénées avec la tenue, on aurait pu la prendre pour les sorcières.
Oui, exactement. Là.
Alors, quand on évoque les pyrénéistes, on parle de Russell, bien sûr, de Wallon, de Schrader, du comte Saint-Saulve, etc. Et on oublie souvent Lucien Brier.
Oui, il faut dire, Philippe, que tous les pyrénéistes que vous avez cités l'ont un peu précédé. Lucien Brier, lui, est né en 1860 et 29 ans plus tard, avec son appareil photographique, il se lance à la découverte des Pyrénées.
Son nom est plutôt associé au versant sud des Pyrénées.
Voilà. En effet, car à partir de 1902, il se laisse attirer par le Haut-Aragon, qu'il va parcourir pendant une dizaine d'années et il en rapporte des photographies exceptionnelles.
Il publie aussi de nombreux articles et donne des conférences qu'il accompagne de projections photographiques. Ce sont ces méthodes de travail que vous évoquez aujourd'hui. Donc on vous écoute, Anne.
Le regard des écrivains sur les Pyrénées, Anne Lasser.
Claire Dalzin est bibliothécaire au musée Paul Dupuy à Toulouse. Elle a consacré un ouvrage à Lucien Brier, qui au début du XXe siècle découvre et photographie le Haut-Aragon. Tous les ans, entre les années 1902 et 1911, il quitte Charly-sur-Marne, où il habite, pour visiter, explorer cette région pyrénéenne, qui apparaît alors comme bien méconnue. Claire Dalzin s'intéresse entre autres aux méthodes de travail de ce pyrénéiste, même si Lucien Brier reste très discret à ce sujet. Nous savons, par les abondantes citations qui émaillent Superbes Pyrénées, écrit Claire Dalzin, que Lucien Brier a lu tous les grands pyrénéistes du XIXe siècle. Il avait d'une part constitué une bibliothèque remarquable qui fut malheureusement dispersée à sa mort. Il avait d'autre part consulté ses ouvrages sur place, à Gèdres, et en avait relevé des passages. Il ne s'agit pas d'une lecture documentaire, mais d'une immersion profonde dans ce monde qu'il découvre et assimile instantanément. Il arrive en Haut-Aragon après les pyrénéistes de la Pléiade qui ont, entre les années 1870 et 1890, effectué un travail cartographique considérable. Mais s'il se réfère et rend hommage à ses découvreurs, il n'hésite pas à rectifier leurs erreurs ou à compléter leurs descriptions par les informations neuves dont il dispose. On sent bien là un refus de révérence devant une quelconque autorité morale, un désir non de rivaliser, mais de se placer, par le sérieux de son travail, sur un pied d'égalité avec ses grands auteurs. Seul Ramon, peut-être parce qu'il l'a lu très jeune, lui inspire une admiration sincère. Mais, s'il ne pratique pas l'humilité, il est d'une grande honnêteté intellectuelle et s'il peut offrir le luxe de contredire ses prédécesseurs, c'est qu'il s'en donne les moyens, travaillant sérieusement et avec méthode. Les précieux carnets de notes conservés au musée pyrénéen révèlent un travail de fourmi. En ce qui concerne la préparation de ses expéditions, nous savons, grâce à plusieurs passages de Superbes Pyrénées, qu'il transportait toute une documentation sur les lieux visités, en particulier les écrits de ses devanciers, qu'il cite parfois et dont il n'hésite pas donc à rectifier les erreurs. Je n'hésite pas à le répéter, écrit-il. La carte des Pyrénées centrales est à refondre dans ses détails, comme dans ses grandes lignes. Des temps nouveaux exigeant des œuvres nouvelles en rapport avec le progrès accompli. Le soir, à l'étape, il s'isole et travaille. Il ordonne ses matériaux et met en forme les réflexions que lui inspirait le trajet de la journée. Cette ébauche lui permet ensuite de se livrer à l'écriture proprement dite dans son bureau de Charlie, où il peut à loisir recréer dans le calme les émotions précieusement ramenées d'Espagne. Et s'il a un doute, le réseau d'amis et de connaissances qu'il tisse au fur et à mesure de ses voyages vient à son aide. On le voit ainsi écrire à un certain Antonio Galve afin qu'il lui indique la situation d'une cueva près d'Abissanda. La réponse, agrémentée d'un plan d'accès détaillé, est conservée au musée pyrénéen. Dans cet ensemble de matériaux, les photographies, qui sont aujourd'hui la partie la plus connue de l'œuvre de Briller, semblent avoir un rôle essentiellement illustratif et documentaire. Si Briller parle peu de son travail d'écriture, il est quasiment muet sur son travail de photographe. Il consacre en tout et pour tout un paragraphe de Superbes Pyrénées à décrire la façon dont il change les plaques de verre de son appareil, et encore il se met en scène de façon quelque peu ironique. Je changeais mes plaques, écrit-il, dans l'alcôve que j'occupais. Cette besogne m'horripilait dès qu'il me fallait l'accomplir. Je devais d'abord me réveiller moi-même au milieu de la nuit, me lever, monter ma lanterne rouge. Puis, après avoir sorti les châssis du sac contenant l'appareil, préparer des chemises pour les clichés impressionnés et des cordelettes pour ficeler les boîtes 18-24 entamées qui auraient pu s'ouvrir par inadvertance. Le pis, c'était de déballer le tout et de le remballer à même un lit de fibres de bois en vue d'éviter la casse, voire les moindres frottements. Combien de fois, brisé de fatigue et contraint de partir à l'aube, j'ai pesté contre Niepce et Daguerre et leur merveilleuse invention. Il est un peu plus prolixe dans ses chroniques alpines où nous apprenons qu'en juillet 1905, la chaleur devient telle que le bois de son appareil joue comme s'il se trouvait sous les tropiques. Les rideaux de ses châssis se collent et il a de la peine à les tirer. L'appareil, les plaques de verre et les papiers sont transportés bien à l'abri dans des cantines de fer que Briller a ramenées de son service en Afrique du Nord et arrimées sur les mules à l'espagnol à l'aide d'un entrecroisement de sangles et de cordelettes. Lucien Briller est connu pour ses talents de photographe. Ces clichés sont les témoins précieux d'un monde vieux de plus d'un siècle, mais c'était une époque où la photographie exigeait de transporter de lourdes charges, puisqu'on utilisait des plaques de verre. Le passage retenu est extrait d'un ouvrage écrit par Claire Dalzin, ouvrage intitulé « À travers le Haut-Aragon dans les pas de Lucien Briller, 1902-1911 », et publié par les éditions Kern en 2007.
Présence.
Cette lettre peut vous surprendre, mais sait-on peut-être pas. Quelques braises échappées des cendres d'un amour si loin déjà. Vous en souvenez-vous, nous étions fous de nous. Nos raisons renoncent, mais pas nos mémoires. voyage est un dernier long voyage, un quai de gare et l'on s'en va. Il ne faut prendre en ses bagages que ce qui vraiment compta. Et se dire merci de ses perles de vie et certaines blessures au goût de victoire. Et vos gestes y reboient tes parfums, ton regard, ce doux miroir où je
présence à Tarascon-sur-Ariège, 100.2.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
C'est un moment œcuménique historique qui vient de prendre place dans la chapelle Sixtine. Le pape